There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement Marine Bodmer qui sponsorise l'émission de cette semaine grâce à son abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcasts. C'est important pour nous, car vous savez que Le Coin du Crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. Entre 1971 et 1972, la terreur s'empare de Buenos Aires, quand des crimes d'une rare cruauté sont répertoriés un peu partout dans la ville. En plein régime militaire répressif, ces assassinats sont perçus comme la goutte qui fait déborder le vase. Mais, alors que les autorités pensent avoir affaire à un monstre patibulaire, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Car derrière ce bain de sang se cache un adolescent aux allures de chérubin inoffensif, Carlos Robledo Puch. L'histoire cruelle et singulière de Robledo Puch, son escalade dans le crime organisé, son allure enfantine et androgyne marquera à jamais la mémoire de tous les Argentins. La légende de El Angel Negro est née. Buenos Aires, 3 février 1972. Les sirènes sont déclenchées partout. Les escadrons de police accompagnés de chiens de garde courent dans tous les sens munis de carabines. La ville est en ébullition. Mais il est déjà dans le train. Il n'a pas acheté de billet. Pourquoi faire? Pour la première fois de sa vie, il baisse les yeux et une larme lui coule le long de la joue. Il sait que tôt ou tard, il sera arrêté. Cette perspective ne l'inquiète même pas. Va-t-on le pendre ou le mettre sur la chaise électrique, comme aux États-Unis? Un escadron composé de militaires peut monter à tout moment. Demandez à vérifier vos papiers. Haussez le ton sans raison valable, pour le plaisir. Parfois, il peut leur arriver de se radoucir et vous demander seulement une cigarette. Quand vous leur montrez vos pièces d'identité, ces mêmes hommes attrayés agitent une main comme pour dire « Mais non, ai-je demandé à avoir tes papiers, moi ?» Oui, c'est aussi cela, vivre en dictature. S'attendre au pire à chaque moment. Un monsieur aux cheveux noirs et gominés est en train de lire tranquillement le journal sur la banquette en face. Il lève un moment les yeux et le scrute. L'aurait-il reconnu ? Vite, il faut changer de place, de wagon, sauter hors du train, s'il le faut. Mais il pose une question un peu bête. Celle du voyageur lambda. Le prochain arrêt, c'est Asunción, n'est-ce pas? Il ne répond pas. L'homme aux cheveux luisants répète sa question lentement en pliant son journal et en se penchant en avant, le prenant certainement pour un étranger. Il sourit pour manifester sa sympathie. Il a de belles dents bien blanches et alignées. Le prochain arrêt, Asunción? Pourquoi diable les Argentins doivent toujours trouver un moyen pour engager la conversation avec vous? Pourquoi ce sourire chaleureux? On se connaît? Un autre passager qui a entendu tout le monologue vient lui porter secours. Asunción, après la prochaine station. Merci. Le fugitif s'aperçoit qu'il converse à propos de lui en espagnol. Le petit ne doit pas comprendre, je pense qu'il est américain, il est sûrement ici en touriste. Vous croyez? Mais qui voudrait venir ici pour du... beau brun aux dents blanches a failli laisser échapper la critique acerbe contre le gouvernement et s'est tu au moment propice. En Argentine, même les murs et les trains ont des oreilles. Le silence revient dans le wagon qui cahote lentement sur la voie ferrée. Manifestement, personne ne l'a reconnu. Il a chaud. De la sueur perle à son front. À présent, il veut juste retourner auprès de maman pour manger tranquillement son plat préféré. Des escalopes panées avec de la purée. Buenos Aires, 5 ans plus tôt. Décembre à Buenos Aires est doux, au ton ocre. Ses couleurs sont présentes sur les arbres qui s'alignent le long de l'avenue Maria de los Nieves, où flottent fièrement les drapeaux blancs et bleu ciel de la nation. Noël est tout proche, on le pressent dès qu'on passe devant les pâtisseries. Tout embaume les sablés au gingembre, le pain d'épices au miel, le panettone aux raisins secs, les galettes aux noix. À défaut de trouver des sapins dignes de ce nom, on prépare des crèches en papier crépon pour représenter la venue au monde du Christ entouré de ses parents, des rois mages et des brebis. Les boutiques aux devantures mornes et aux rideaux rouillés donnent le ton aussi. Toutes les vitrines sont baignées de lumière jaune et chaleureuse et on peut apercevoir par moments une vendeuse enlever élégamment ses escarpins des pieds pour monter habillé le mannequin en plastique exposé aux clients. Noël en Argentine, en cette fin d'année 1968, est un moment de répit. Répit de tous les événements fâcheux de ces derniers mois, répit des tracas de la vie politique qui planent comme la mort sur tout le pays. Cela serait trop demander d'oublier pendant quelque temps qu'on s'embourbe à plein pied dans une guerre civile, que les prisons regorgent d'opposants politiques et que presque tous les prix des matières premières ont doublé, sinon triplé, ces dernières semaines. Pourtant, on avait encore de l'espoir quand le général Juan Carlos Onganía a été élu le 29 juin 1966 et Vincent Perón est faisant dégager sa belle et militante Evita par la même occasion. Tout le monde croyait que d'importants changements allaient se produire, que l'Argentine pourra enfin accéder au statut de pays développé, non réfractaire à la modernité et la liberté. Mais les promesses des politiques sont comme les rêves, éphémères. Et les dirigeants, une fois élus, ne pensent qu'à une chose, s'accaparer le siège et y rester aussi longtemps que possible. Le président a vite fait de briser les rêves de la jeunesse dorée en menant une véritable chasse aux sorcières contre toutes les manifestations culturelles, ordonnant les restrictions et la censure, faisant fermer une à une les rédactions aux mouvances libérales, les galeries d'art, les musées et les boutiques. En somme, tout ce qui peut porter atteinte à son image déjà controversée au début de son mandat présidentiel. Dorénavant, sa préoccupation se résume à mesurer la longueur des jupes des filles et à abolir la pilule contraceptive. Car selon lui, une femme argentine est d'abord mère avant d'être médecin, professeur, secrétaire, actrice ou vendeuse. Malgré tous ses efforts pour réinstaurer le conservatisme si cher aux anciennes générations, Juan Carlos Onganía n'arrive pas à réduire à néant le vent nouveau qui semble planer sur Buenos Aires et sa vie culturelle, déjà trop trépidante et colorée, qui semble scander à chaque coin de rue « Viva la vida ». C'est à cette époque tourmentée, plus précisément dans le quartier résidentiel de San Telmo, que vit la famille Puch. Composée des parents Victor et Aida et de leur fils adolescent Carlos. La famille Puch loue le rez-de-chaussée d'une vaste villa aux persiennes vertes entourée d'un jardin où ploient de hauts et imposants bananiers. Tous les habitants de San Telmo font partie de la classe moyenne aisée ou de la vieille bourgeoisie italienne. Le père de famille, Victor Robledo, est un homme tout ce qu'il y a plus respectable. Le fait qu'il n'ait jamais obtenu de diplôme universitaire n'empêche pas les gens de l'appeler « l'ingénieur ». Il est employé chez General Motors en tant que représentant des ventes. Il voyage beaucoup pour son travail, non seulement en Argentine, mais aussi dans tous les pays d'Amérique latine et même parfois en Espagne. Victor Puch est toujours impeccable, soigné, affable, sérieux et serviable. Bon mari, bon père, bon employé, bon voisin. Petit, le teint olivâtre, le front dégarni, il est d'origine catalane, italienne et irlandaise. Son épouse, Aida Josefa, née Abendak, possède pour sa part un diplôme de chimiste, mais n'a jamais travaillé avec. Depuis son mariage, elle assure la fonction de femme au foyer. Née en Allemagne, elle ne pensait jamais immigrer en Argentine un jour. la Seconde Guerre mondiale est venue pourtant entraver ses plans. Comme nombre de ses compatriotes, elle a été contrainte de prendre la route de l'exil en Amérique latine pour des raisons de vie ou de mort. Aida Puch est une femme aux nerfs fragiles qui a déjà fait 2 tentatives de suicide par le passé. Un sujet tabou que seul son mari connaît. Les raisons sont nombreuses. La défaite cuisante de son pays pendant le 2e conflit mondial, la diabolisation des Allemands, la traque des anciens nazis échappés, a beaucoup pesé sur son psychique. Le couple se rencontre quand Aida Abendak vient à peine de s'installer dans sa nouvelle patrie. Elle a alors 28 ans, et seule, parle à peine espagnol, sans ressources, sans attache. Sa timidité maladive bloque son intelligence, éclipse sa féminité, l'empêche de nouer des amitiés. Les Argentins la trouvent trop froide et taiseuse. Les Allemands de Buenos Aires la dédaignent. Victor Puch l'accepte pourtant telle qu'elle est. Lui qui vient à peine de sortir d'un divorce désastreux. Ce n'est pas la grande passion, mais plutôt un mariage de raison où l'amour va finir par intervenir rapidement. Il faut dire qu'Aïda, à l'aube de la trentaine, 28 ans à l'époque, c'est tard pour se marier et enfanter, est enchantée d'être enfin casée, de posséder son propre appartement et d'avoir un mari gentil et conciliant qui travaille dur pour subvenir à tous ses besoins. Elle se fixe alors pour but de tomber enceinte, pour parfaire ce bonheur, pour donner une légitimité à son couple. Il tente et retente pendant 2 ans. En vain. Le couple est sur le point d'abandonner ses projets de conception, quand Aïda tombe finalement enceinte au moment où elle s'y attendait le moins. Elle ne tient plus en place tant son bonheur est grand. Elle compare cette grossesse à un miracle divin. Redoutant de faire une fausse couche, elle prie à l'église, se ménage, se repose, mange des mets gras, consulte régulièrement le médecin de famille. Le premier trimestre de grossesse s'écoule sans problème. Elle soupire de soulagement pour la première fois. 9 mois plus tard, plus précisément le 19 janvier 1952, le bébé tant attendu vient au monde. Tout petit, roux, palichon et pesant à peine 2,5 kg. C'est la réplique exacte de sa mère. Une semaine plus tard, il est baptisé Carlos Eduardo Robledo. Aida, qui ne le lâche pas une seconde, commence à l'appeler Carlitos. Bébé longtemps désiré, il devient rapidement le centre d'attention de ses parents, puis un petit garçon très choyé auquel on ne peut rien refuser. Carlitos grandit dans un environnement familial sain et harmonieux, entouré de l'amour étouffant qui est le lot de la plupart des enfants uniques. On lui passe tous ses caprices, lui achète tout ce qu'il veut. Victor a les moyens de le gâter et Aida ne s'y oppose pas. Rien n'est jamais trop bien ou trop beau pour lui. Il faut dire que plus il grandit, et plus sa beauté devient évidente. Une beauté particulière, qui rappelle ses personnages de la Renaissance italienne. Nez parfaitement droit, peau translucide, chevelure bouclée et blonde, yeux bleus et intenses, lèvres rouges, on pourrait aisément le prendre pour une fille. D'ailleurs, en sortant l'album de famille ramené d'Allemagne, sa mère lui montre ses photos d'enfance en Bavière, en petite culotte et en couette blonde. La ressemblance avec son fils est frappante. Mais il arrive un temps où il faut bien quitter les jupons de maman pour rentrer à l'école. Le couple Puch fait tout pour que son fils bénéficie de la meilleure éducation possible. Carlitos prend rapidement goût à la lecture car sa mère avait pour habitude de lui raconter les fables des Grimm pour s'endormir. Il prend aussi des cours de piano et de tennis et passe ses 2 premières années de primaire de façon normale. Si l'enfant aime beaucoup son père, homme prude, peu porté sur les câlins, il adore sa mère et développe avec elle une relation vitale, intense. Aida le couvre et les surprotège à outrance. Mère et fils font souvent les emplettes ensemble et vont à l'église chaque dimanche. Le jeune garçon adore la cuisine de sa mère et particulièrement les escalopes panées avec de la purée de pommes de terre. Pendant 4 années, il est considéré comme un élève modèle à l'école et un musicien en herbe à l'avenir prometteur par ses enseignants du conservatoire Alberto Williams. Les compliments pleuvent de tous côtés au sujet de ce mignon enfant aux boucles blondes, habillé comme un petit lord du siècle dernier. Carlitos comprend qu'il est le centre du monde de ces adultes, qui se mettent en quatre pour exaucer tout ce qu'il veut. Mais à partir de 1958, alors qu'il a 6 ans, ses notes à l'école commencent à décliner sérieusement. Pourtant, il adore lire et est très doué pour les mathématiques. L'année scolaire est un fiasco et il est obligé de redoubler sa dernière année de primaire car il a séché les examens. Simplement comme cela, parce qu'il l'a décidé. À l'âge de 11 ans, il commence à voler des bonbons dans le kiosque de son école. Le fait de n'être jamais surpris ou puni l'encourage davantage. Il développe une véritable tendance kleptomane et commence de plus en plus à glisser sa main dans les cartables de ses camarades, volant gâteaux, argent, crayons de couleur, tout ce qu'il peut chaparder, sans jamais éveiller les soupçons. Il est d'ailleurs très habile pour la dissimulation et le mensonge. En 1965, alors qu'il est âgé de 13 ans, sa famille déménage dans une nouvelle maison, une villa du quartier de San Telmo. C'est à partir de cette époque que commencent ses premiers actes de rébellion. L'année suivante, faute de pouvoir intégrer le lycée à cause de ses mauvaises notes, il est inscrit à l'Institut technique San Ferdinando. Là, il intègre un cursus de menuiserie. Mais il se lasse vite des travaux pratiques, méprise ouvertement les autres garçons issus des bidonvilles, et cela génère souvent des bagarres au sein de la classe, parfois en présence du professeur. Carlitos, habitué à être le centre d'intérêt de ses parents, n'arrive pas à concevoir comment il ne peut pas faire la loi ailleurs aussi. L'école buissonnière devient alors son refuge. Il sèche les cours, finit par être recalé dans 6 classes et redouble une seconde fois. En désespoir de cause, son père lui fait changer à nouveau d'école et le met l'année suivante dans un autre établissement qui prépare au métier, la Escuela Don Oniane. Loin d'apaiser les tensions, les choses empirent et le comportement de Carlos devient de plus en plus problématique, irascible, indomptable. Avec cela, il est rarement démonté et affiche toujours un air désinvolte, serein, moqueur, revêche. En d'autres termes, une véritable tête à claque. Faire enrager ses professeurs lui procure une satisfaction jouissive. Devenu volontairement un élément perturbateur, la direction fait plusieurs fois appel à son père. Mais ce dernier ne se manifeste jamais, et s'il répond à une requête, c'est juste pour dire « Oh, vous savez, les enfants sont ce qu'ils sont. Carlitos est un bon petit gars, il lui faut juste un peu de temps pour s'adapter aux autres et leur permettre de s'adapter à lui. » Le motif pour le renvoyer tombe alors à pic. Il est surpris en flagrant délit en train de voler la somme de 1500 pesos de la caisse du secrétariat de l'école. Les Pooch sont prévenus. Qu'ils viennent retirer leur gamin sur le champ, sinon la police viendra l'embarquer. Il est décidé qu'il ne sera pas inscrit dans une autre école. À 15 ans, Carlos est déscolarisé. Son père, qui a horreur de le voir se tourner les pouces pendant toute la journée, affalé sur le canapé ou se déhanchant au son du tourne-disque, décide de l'envoyer comme apprenti chez un réparateur de télévision. Mais au lieu d'aller travailler, il passe ses journées à traîner dans les rues de la ville, usant l'argent de poche donné par son père pour acheter des cigarettes. D'ailleurs, il développe une nouvelle activité. Jeter des mégots allumés dans les boîtes aux lettres du voisinage pour brûler le courrier. Il aime bien aussi saccager les lampadaires en les percutant avec des cailloux. L'atmosphère à la maison devient de plus en plus toxique. Le jeune homme se confronte violemment à ses parents tous les jours. Pour le simple plaisir de les contrarier, il fait exactement le contraire de ce qu'ils disent. Si par exemple il lui conseille de rentrer tôt le soir, il fait tout pour rentrer aux alentours de 2 ou 3 heures du matin, allant parfois jusqu'à découcher sans prendre la peine de les prévenir. Adolescent, solitaire et difficile, il peine à se faire des amis et nouer de vraies relations. D'ailleurs, il en a cure. Cela ne semble pas le faire souffrir. Les garçons du quartier le détestent et ont décidé de lui en faire voir de toutes les couleurs. Ils lui donnent plein de petits surnoms. Marilyn Monroe, la fillette, le taré. Ils se moquent de ses vêtements et sa démarche jugée trop féminine pour celle d'un garçon. Carlos a l'habitude d'acheter des vêtements chers et élégants. Ses parents peuvent se le permettre. Les autres garçons ne l'entendent pas de cette oreille et dès qu'ils l'aperçoivent sortir de la maison pour aller chercher des bonbons ou des cigarettes, ils n'hésitent pas à lui tirer son pantalon, ses cheveux, ou lui jeter des mégots dans l'espoir de le brûler. En guise de réponse, Carlos Pooch continue comme si de rien n'était, suivi par une horde de garnements du quartier qui imite en rigolant son déhanché de jeune fille. Le soir venu, après dîner, Son père le prend à part pour le sermonner, non sans beaucoup d'émotion dans la voix. Il n'a pas l'habitude d'être sévère avec lui. Écoute Carlitos, je ne suis pas éternel. Pour le moment, je peux te fournir ton argent de poche, acheter tes vêtements, tes disques. Mais viendra un temps où tu devras être responsable de toi-même. Tu sais, j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans et je donnais la moitié de ma paye à ma mère. Ouais, papa, mais ça, c'était dans le temps. Lui lance son fils en passant ses doigts sur les touches du piano. Victor Pusch ne peut s'empêcher de baisser les yeux. Aida, qui est en train de débarrasser la table, vient à son secours. Ce que ton père essaye de te dire, Carlitos, c'est qu'il faut que tu apprennes un métier qui te servira pour l'avenir. Choisis ce que tu veux, quelque chose qui t'intéresse. Ouais, mais moi, j'en ai rien à foutre de l'avenir, je vis le moment présent. Carpe diem, tu connais? Ah non, c'est vrai, dans ton pays d'origine, on ne connaît pas. Au fait, c'est vrai que vous avez assassiné des juifs? Ce n'est pas gentil, ça. Aida Pusch avale péniblement sa salive, ses yeux se remplissant de larmes. Elle manque de faire tomber une assiette sale par terre. Son fils observe tranquillement son trouble, un rictus méprisant au bout des lèvres. À présent, toutes les discussions familiales se concluent ainsi. Carlos n'hésite pas à appuyer là où cela fait mal, obligeant son père à quitter parfois la table avec son assiette pour dîner seul sur le canapé. À force d'avoir été trop permissif, les Pusch sont maintenant incapables de se faire respecter par leur fils adolescent. Quelques jours plus tard, Carlitos vole une radio chez le réparateur de télé chez qui il est censé faire son stage. De retour chez lui, il tente de la revendre au pharmacien du quartier. Ce dernier n'est pas dupe et prend aussitôt contact avec sa mère. La réponse de la maman choque le pharmacien autant que le délit lui-même. Si mon fils veut vendre cette radio, eh ben, qu'il le fasse. Il a besoin d'argent pour s'acheter un vélo. Le pharmacien finit par la lui acheter, mais elle sera saisie plus tard par la police en tant qu'objet volé. Victor Pusch, qui travaille comme représentant des ventes pour une entreprise d'électroménager, se déplace beaucoup pour faire du porte-à-porte. Son fils rebelle, qui ne rêve que de moto dernier cri, virée et surprise partie, devra l'accompagner. Ainsi, il pourra apprendre en observant et, si affinité, être capable de reprendre le flambeau et se faire engager à sa place plus tard. Victor Pusch aime son métier et l'exerce avec beaucoup de passion et de dévouement. Dans chaque maison, appartement, villa, il vante avec la même énergie les mérites de nouveaux aspirateurs et autres nouveaux gadgets électroménagers qui viennent de débarquer en Argentine. Voir son père en pleine démonstration de produits devant la potentielle cliente l'humilie. Une chose est sûre, il ne vivra jamais comme lui. Il ne courbera l'échine devant personne. Il sera riche et profitera des plaisirs de la vie sans avoir à fournir d'efforts physiques ou intellectuels. Pusch père est infatigable lorsqu'il s'agit d'expliquer le mode d'emploi aux ménagères ou à leurs servantes. C'est un commercial habile, avenant mais jamais cupide. Il garde toujours un œil sur Carlitos quand ce dernier commence à se promener dans le salon des clientes, piochant dans la collection de vinyles, poussant la hardiesse jusqu'à mettre de la musique. « N'est rien, monsieur Victor, les jeunes adorent la musique, laissez-le faire !» rassurent ces dames vêtues de pantalons pattes d'éléphant et de chemises à fleurs. L'adolescent sourit aimablement à la propriétaire des lieux, se fait complimenter pour sa beauté juvénile, ses boucles blonds vénitiens, sa tenue impeccable et ses bonnes manières. Le père finit par se rengorger, fier de son fiston. À la fin de la journée, il lui glisse un billet de 20 pesos dans sa poche. Rétribution pour l'avoir accompagné afin d'apprendre le métier. Monsieur Pusch est une âme pure. Il ne soupçonne rien de mauvais chez son garçon. Si le comportement excentrique et insensible de l'adolescent n'inquiète pas encore tant que cela ses parents, la journée du 15 décembre 1968 marque un vrai tournant dans sa vie et son début d'escalade dans la délinquance. Ce jour-là, Carlos rentre dans la boutique d'un certain Marcello Cisini, ancien champion de moto d'Argentine. Carlos vole une mobylette Siembretta. Il fait le tour du quartier en fanfaronnant. Un des voisins demande à la lui racheter. Il n'en aura pas le temps car le fils de Marcello Cisini, qui gère le magasin, l'a aperçu avec la moto volée et s'est souvenu de son visage. Il lui tend un piège et le conduit au poste de police de Vicente López. La police argentine à cette époque est à l'image du régime répressif en place. Matraqueuse à souhait. Carlos, le visage encerclé de boucles blondes, confesse 9 autres délits de la même nature. Il est présenté devant un juge pour mineurs qui l'envoie à une institution réformatrice, sorte de maison de redressement pour enfants et jeunes individus criminels. Ses parents sont couverts de honte, mais décident de garder l'affaire secrète pour sauvegarder l'honneur de la famille. Au début de l'année 1969, le turbulent adolescent confie au directeur de son institution qu'il n'a aucun lien avec ses parents et qu'ils ne le comprennent pas. Il ajoute « Mon père est un homme dénué de tendresse. Il ne m'a jamais aimé. Nous n'avons jamais été amis. En vérité, je n'ai aucun ami. » Il reste dans cette maison de redressement pendant 20 jours seulement car son comportement est jugé irréprochable. Il est même décrit comme obéissant, non réfractaire aux tâches difficiles et aimable avec tout le monde. Pourtant, il continue à être haï par les autres enfants qui le traitent de lopette et de pédé. Selon le directeur de cet établissement, Carlos manquait vraisemblablement d'affection parentale. Avec beaucoup de peine, Aida Puch parvient à obtenir un permis pour pouvoir retirer son fils de là. Sur le chemin du retour, Carlos saute sur la main de sa mère pour l'embrasser en signe de repentance. « Je te demande pardon, maman. Je ne recommencerai plus, c'est promis. » Le faible cœur de maman Aida abdique. Elle ignore alors que ce n'est que le début d'une série de promesses jamais tenues. À la maison, Carlos continue son mea culpa devant son père. Je ne traînerai plus jamais le nom de Puch dans la boue. À l'âge de 17 ans, Carlos fait la rencontre de Monica, une jeune fille qui vient de s'installer dans le quartier avec sa famille. Monica a une sœur jumelle, Maria Isabel. Entre le jeune homme et l'adolescente de 15 ans, le coup de foudre est vite arrivé. Ils commencent à se fréquenter de plus en plus souvent, sortant dans les bars avant de finir la soirée en s'enlaçant et s'embrassant derrière la maison de Monica. Carlos se fait même tatouer son nom sur sa poitrine. Quelques mois plus tard, les parents de Carlos l'inscrivent dans l'Institut Cervantes à Vicente López, espérant ainsi pouvoir le sauver et lui éviter de trop traîner dans les rues. L'établissement est respectable et il pourra y apprendre un métier pour arrêter de voler. C'est à Cervantes qu'il fait la rencontre qui va marquer toute sa vie. Jorge Antonio Ibanez. Les deux jeunes hommes sont dans la même classe. Ils sont de la même trempe, celle des éternels écorchés vifs incompris. Carlos confie à son nouvel ami son histoire d'amour avec Monica, mais Jorge lui conseille de ne pas perdre son temps avec les femmes, source de tous les problèmes. La rencontre entre Jorge Antonio et Carlos est fatale. Entre eux, une amitié ambiguë s'installe, vénéreuse, faite de tensions et d'amour, de compétition et de moments de répit, une espèce de « je t'aime moi non plus ». Ils se taillent une mauvaise réputation de cancre dans leur école. Carlos est intelligent mais déteste étudier. Il passe son temps à harceler ses professeurs et pousse la hardiesse jusqu'à les corriger au tableau, générant à chaque fois l'hilarité générale. Une fois, la situation déborde et Carlos est envoyé chez le directeur. « Alors, on veut faire l'intéressant ? On ose contredire Monsieur Minoz en plein cours ? On ne t'a pas assez fessé à la maison ? Eh bien, tu ne paieras rien pour attendre. » Carlos reçoit une sacrée raclée ce jour-là. Lui, qui d'habitude montre une désinvolture dans toutes les situations graves, éprouve énormément de haine et d'humiliation. La situation dégénère rapidement. Pris d'un accès de rage, il s'empare d'une chaise et la fracasse contre le mur. Il est exclu le jour même de l'établissement. Jorge Ibanez suit le même chemin quelques jours plus tard. Les deux amis deviennent inséparables. Carlos commence à passer plus de temps avec Jorge qu'avec ses parents. Ce dernier le présente un jour à son père, un homme bizarre avec un passé criminel controversé. Dès le premier jour, Monsieur Ibanez apprend à Carlos comment tirer à bout portant avec un revolver, puis une carabine. Le jeune apprenti est exalté par l'atmosphère et le mode de vie des Ibanez. Une famille aux allures hippie, sans tabou, sans contraire, dont la mère ne fait jamais ni la cuisine ni le ménage, et traînent à moitié nus dans la maison, peu importe que les garçons soient là ou pas. Quand ils ont faim, ils vont directement se servir dans le frigidaire. Ici, aucun horaire n'est imposé, aucune limite aussi. Chacun fait à sa guise et selon son envie. Carlos se retrouve pleinement auprès de cette singulière famille aux mœurs libertines, qui a vite fait de l'adopter à temps plein. Il ne peut s'empêcher de faire la comparaison avec la vie morne et remplie d'interdits de ses propres parents, toujours effrayé à l'idée de froisser quelqu'un, de faire mauvaise figure, d'entacher leur réputation, de sortir hors des sentiers battus. Chaque soir, Roray et Carlos se retrouvent pour refaire le monde. Ils s'imaginent millionnaires, roulant en Rolls-Royce, jouant dans les casinos de Vegas, buvant du champagne et mangeant du caviar. Roray est l'extrême opposé de son ami. Il est d'abord plus âgé et expérimenté, grand, brun, viril, ténébreux, sentimental, impétueux. Autrement dit, le mal latin dans toute sa splendeur. Il est différent même sur le plan psychologique. Il est indécis, changeant, impulsif, optant pour la facilité et est parfois très lâche. Quelques mois s'écoulent. Carlos continue toujours de fréquenter assidûment les Ibanez, passant souvent la nuit chez eux, pelotant au passage les fesses de Madame Ibanez qui ne s'y oppose pas. Un soir, le père de Roray décide qu'il leur faut cambrioler une bijouterie. La bijouterie en question s'appelle El Suizo. Roray et Carlos sont désignés pour commettre le méfait, tandis que lui restera dehors dans la voiture pour monter la garde. À une époque où les caméras de surveillance ne sont pas encore légion, cambrioler est un jeu d'enfant, même pour les voleurs peu expérimentés. Les deux acolytes pénètrent dans la bijouterie par le toit. Ils ont ordre de prendre tout ce qu'ils pourront et de tirer au pistolet au cas où ils seront surpris par un vigile. Armés de remonte-pneus, ils cassent les vitrines où sont exposées les pièces en diamants et pierres précieuses. Carlos s'empare d'une paire de boucles d'oreilles, l'enfile et commence à s'admirer dans le miroir. Roray vient le rejoindre. Il reste là quelques minutes à observer leur reflet en silence. « Che Guevara est fidèle, Castro !» annonce Roray, tout fier. « Evita et Perón !» le corrige Carlos en lui jetant un regard suggestif et félin. Chargés de leur sac rempli de bijoux, les deux complices s'enfuient et vont rejoindre le père Ibanez dans un hôtel. Là, ils se départagent leur butin à parts égales. Deux semaines plus tard, ils retournent dans la boutique de moto de Marcello Cizzini et y volent deux Vespa. Les deux garçons projettent de se rendre à Mar del Plata pour y passer quelques jours de vacances. Sur le trajet, la moto de Carlos tombe en panne. Roray ralentit pour redescendre l'aider. À ce moment, un fourgon rempli de policiers s'arrête devant eux. « Vous avez les documents de ces engins ?»«
On les a oubliés à la maison, mon lieutenant. »
Si vous n'avez pas de documents sur vous, cela peut expliquer trois choses. Soit vous êtes des membres de la guérilla, soit vous avez volé ces motos, soit vous êtes complètement con. Ils sont conduits au poste de police où leurs empreintes sont prélevées et passent la nuit dans un cachot. Le lendemain, ils présentent deux fausses pièces d'identité. Carlos se fait passer pour un certain Carlos Alberto Ferreira et Roray pour Juan José Oviedo. Des noms d'emprunt inventés de toutes pièces. Carlos Puch possède une autre fausse pièce d'identité où il se fait appeler cette fois Carlos Schumacher. La police accepte de le libérer à une seule condition, qu'il revienne dans moins d'une heure avec les documents des deux motos. Avant de quitter le commissariat, il échange un regard intelligent avec son ami au bord des larmes. Restez là, car la police souhaite l'interroger plus longuement. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec la milice. Ils peuvent vous accuser de tout et n'importe quoi et vous envoyer aux oubliettes. C'est déjà arrivé à des moins minables qu'eux. Carlos ne fera rien pour sauver Roray. Bien au contraire, il rentre chez ses parents en sautant par la fenêtre, récupère quelques affaires et prend le train pour Mar del Plata tout seul. Il y reste une dizaine de jours avant de rentrer à la maison. Quand il rentre d'un air triomphant dans la salle à manger, ses parents restent figés sur place. Ils ne savent comment réagir face au retour de l'enfant prodige. Sa mère lui sert son plat préféré. Son père, assis à l'autre bout de la table, commence à le sermonner. « Papa, tu vas encore me reprendre le même disque? D'ailleurs, tu n'auras plus à travailler maintenant ni jamais. J'ai quelque chose pour toi. » Carlos s'empare d'un sac qu'il projette sur la table sous le nez de son père. « Qu'est-ce que c'est ?» Ouvre et tu verras. Il est rempli à ras-bord de bijoux dérobés à la bijouterie El Suizo.
et de billets de banque empaquetés. Victor Pusch ouvre la bouche, mais n'arrive à prononcer aucun mot. Il fait un mouvement de recul, comme si le seul fait de toucher le sac pourrait lui brûler les doigts.
« Non, 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 je ne veux... Où as-tu pris ça? Qui te l'a donné? Réponds, il faut tout rendre à son propriétaire. »
« Pourquoi toutes ces questions, papa? C'est pour toi et maman. Tu pourrais dire merci au moins. »
Victor Pusch quitte la table, la mine défaite. À la tombée de la nuit, il s'empare du sac, creuse une fosse dans le jardin et l'enterre dedans. Carlos passe les prochains jours à traîner dans le quartier. Il cherche à voir Monica, mais cette dernière s'est trouvée un autre petit ami. Cette nouvelle l'attriste pendant un moment, mais il ne s'y attarde pas. Il n'est pas assez sensible pour cela. Alors, Jorge Antonio lui revient en mémoire. La dernière fois où il l'a vu, c'était au poste de police. Il était au bord des larmes et parlait d'une toute petite voix au policier qui l'interrogeait. Lui, d'habitude si impétueux, aussi plein d'assurance. Carlos s'imagine qu'il a attendu toute la journée. Désespérément, avant de comprendre qu'il lui a planté un couteau dans le dos, qu'il l'a trahi. Pauvre vieux, faut que j'aille le voir. En passant devant la maison des Ibanez, il l'aperçoit justement en train de charger quelque chose dans le coffre. Il a donc été relâché. Par quel miracle ? Jorge le dévisage de la tête aux pieds d'un air méprisant. Carlos lui fait son plus beau sourire, remet en place une mèche blonde et rebelle.
« Désolé, vieux, je ne voulais pas. C'est trop tard pour les excuses. Oust, je ne veux plus te voir.
Sinon tu feras quoi ?» demande Carlos en s'approchant de lui. Avec le même sourire impertinent.
Jorge frémit. Un air se met à battre au niveau de son sourcil gauche. Carlos a gagné. Ils se remettent ensemble, oubliant cette mésaventure et reprennent leur activité de délinquance comme à l'accoutumée. Le 15 mars 1971, les deux acolytes cambriolent la discothèque Enamor à Olivos. Après avoir fait la fête un bon moment, ils quittent l'endroit. Avant d'y revenir quelques heures plus tard, résolu à voler la caisse. Il casse la fenêtre de derrière de l'établissement et vole 350 000 pesos. Par la suite, Carlitos tire sur le propriétaire et le veilleur de nuit et les tue dans leur sommeil. Un crime gratuit fait de sang-froid. Après ce premier meurtre, le binôme se fait discret pendant quelques semaines avant de revenir à la charge le 9 mai de la même année. Ils entrent par effraction dans une boutique de pièces détachées Mercedes située à Vicente López. Ils ignorent alors qu'un couple et leur bébé sont en train de dormir dans l'arrière-salle du magasin. Carlos tire sur le couple et tue instantanément l'homme. Quant à Jorge, il tente de violer le cadavre de la femme, mais y renonce. Il dérobe dans la caisse 400 000 pesos. Avant de quitter les lieux, Carlos tire une dernière fois sur le berceau du bébé, mais la balle ricoche et il n'insiste pas. Les deux apprentis voleurs ont dégringolé dans l'horreur sans le savoir. Tuer devient quelque chose de naturel pour eux. Surtout pour Carlos, qui n'a aucune mauvaise conscience. Le 24 mai à Tanti, il tue le gardien de nuit d'un supermarché avant de fuir sans rien voler. Quelques semaines plus tard, Ibanez fait irruption dans un garage automobile à Constitution. Il abat le gardien tandis que Carlos vole une Ford Fairlane. Le duo meurtrier repère quelques heures plus tard une jeune adolescente quittant un bowling. Il la kidnappe et tandis que Carlos conduit, Ibanez la viole sur la banquette arrière. De peur qu'elle les dénonce, Carlos lui tire 5 balles dans le dos. Par la suite, ils vont au cinéma regarder un film. Environ 2 semaines plus tard, ils reviennent dans le même secteur, kidnappent une autre fille qu'ils violent cette fois-ci tous les deux. Elle est jetée par la suite toute nue par la portière de la voiture et tandis qu'elle tente de fuir, Carlos lui tire 7 balles dans le dos. Elle s'effondre, morte. Si Jorge semblait avoir beaucoup d'ascendant sur son ami et complice au début de leur rencontre, il est maintenant clair que c'est Carlos et seulement lui qui tire les ficelles de ce jeu macabre et destructeur. Jorge lui obéit à présent au doigt et à l'œil. D'après les témoignages et les descriptions des personnes qui ont fréquenté ce tandem, Carlos était très amoureux de son complice. Jorge, qui souffrait d'une homosexualité refoulée,
n'a d'autre choix que de camoufler ses tendances sexuelles en se faisant passer pour un serial lover notoire auprès des filles. Ce n'est que devant Carlos Puch qu'il peut donner libre cours à ses pulsions homosexuelles. Parfois, après un rapt ou un meurtre, ils stationnent leur voiture à l'écart et commencent à discuter comme le feraient deux vieux amis à la sortie d'un concert. Jorge avoue qu'il rêve de devenir chanteur. Pendant la période où ils s'étaient séparés, il a commencé à fréquenter un homme fortuné qui lui a dégoté une place à la télévision nationale pour lancer sa carrière. Une carrière musicale qui d'ailleurs ne décollera jamais. « Et tu couches toujours avec lui pour de l'argent ?» demande Carlos en tirant sa cigarette. « Non, c'est fini tout ça, c'était une bêtise. » Le 5 août 1971 marque la fin de l'amitié du duo meurtrier. On ne sait pas ce qui s'est passé la nuit précédente, mais apparemment, revenu ivre d'une soirée, Jorge a cherché à coucher avec son complice. Ce dernier n'a pas voulu et cela a dégénéré en dispute violente. Le lendemain, Carlos écrase volontairement la voiture qu'il conduit contre un mur, tuant d'un seul coup Ibanez assis sur le siège passager. Il s'en sort indemne, malgré tout, avec seulement quelques légères blessures. Après la mort de Jorge Antonio Ibanez déclarée accidentelle, Carlos se permet une trêve de quelques semaines. Il retourne à son lycée technique, à la maison, et renoue même avec un ancien ami d'enfance, Hector Somoza. Il le convainc ce dernier de devenir son partenaire de crime en contrepartie de beaucoup d'argent à gagner. Somoza, qui est sournois et n'a pas plus de moralité que Carlos, accepte le compromis. C'est ainsi que le 15 novembre 1971, ils attaquent un supermarché de la périphérie de Buenos Aires en ouvrant le feu sur les clients et en tuant deux personnes plus un gardien de sécurité. Fin novembre, ils assassinent ensemble un concessionnaire automobile et son vigile. L'aventure s'achève tragiquement le 1er février 1972 quand ils entrent en infraction dans une quincaillerie de la périphérie de Buenos Aires. Carlos abat tout de suite le gardien qui dort sur une chaise et lui vole son trousseau de clés afin d'ouvrir le coffre-fort. Il s'aperçoit qu'aucune des clés ne marche. Très remonté, Carlos termine son forfait avec son revolver, puis avec une hache. À sa grande déception, le coffre-fort est vide. Somoza, peu convaincu par le fait qu'il n'y ait pas d'argent dans le coffre, accuse Carlos d'avoir tout manigancé pour s'emparer de tout le butin. Ce dernier s'énerve, sort son revolver et abat son partenaire sans hésiter. Le 4 février 1972, Carlos Robledo Puch est arrêté lors d'une embuscade. Il est interrogé pendant de longues heures. « Pourquoi lui avez-vous tiré dessus pendant son sommeil ?» interroge le policier à propos du dernier double meurtre à la quincaillerie. « Je voulais le réveiller », répond Carlos en souriant. En tout, il lui sera reproché plus d'une douzaine de meurtres, une vingtaine de vols à main armée et cambriolages de boutiques de luxe, de bijouterie et d'armurerie, des crimes aussi ignobles les uns que les autres, souvent commis de sang-froid et sans raison valable. Carlos avoue lui-même être irrécupérable, qu'il a pour habitude de ne se fixer aucune limite, aucune moralité et n'éprouve aucune pitié pour personne. Il n'arrive pas à dissocier le bien du mal et n'a aucune mauvaise conscience. Son aspect androgyne, ses bonnes manières, ses origines bourgeoises ont longtemps joué en sa faveur et ont endormi tout soupçon à son égard. Le profil des victimes inclut des hommes pour la plupart, des barmen, gardiens de parking, vigiles, vendeurs. Le mode opératoire de Carlos se résume à poignarder, étrangler, égorger. Mais sa technique de prédilection est tirer toujours une balle à bout portant dans le dos de la victime. Arrêté le 4 février 1972, il n'est condamné que 6 ans plus tard. Il s'enfuit lors d'un examen médical en prison. Sa cavale dure 4 jours où il prendra le train pour aller à Salta dans le nord avant de rebrousser chemin. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, il purge toujours sa peine dans la prison de haute sécurité de Sierra Chica, située dans la ville d'Olavarria à 400 km de Buenos Aires. Le 27 mai 2008, Carlos Robledo Puch fait une demande de libération conditionnelle qui est aussitôt rejetée par le parquet, le juge considérant qu'il constitue toujours une dangereuse menace pour la société. Lors d'une interview en 2010, il raconte qu'il voulait être une star planétaire et espérait que son histoire aux allures de thriller soit produite un jour par Martin Scorsese ou Steven Spielberg. Il voulait même être joué par les acteurs Leonardo DiCaprio ou Matt Damon. En 2018, son vœu est exaucé avec la sortie de l'excellent opus biographique à son sujet. Produit par Luis Ortega et Pedro Almodovar, El Angel reprend fidèlement l'histoire familiale et criminelle de Carlos Puch depuis ses débuts jusqu'à son arrestation. Il est joué par le jeune acteur argentin Lorenzo Ferro, qui lui ressemble d'ailleurs comme deux gouttes d'eau. Enfant choyé, enfant terrible, psychopathe narcissique, on ne saura jamais vraiment quelles étaient les motivations de Carlos Robledo Puch. Était-il né pour tuer ? Il reste que son histoire a hanté pendant longtemps la société argentine, déjà aux prises avec la dictature militaire de ces sombres années 70 et 80. Son histoire a longtemps été comparée à celle du clan Pucho, qui a sévi à peu près à la même période et dont l'affaire a déjà été racontée dans un précédent podcast. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.